Merci. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions? Déjà, n'hésitez pas à vous lever le bras, on vous amène le micro. Oui, là-bas. Alors, on va prendre le micro, parce que sinon, on n'entend pas. Et...
J'en sais rien.
Alors, je...
Non, mais écoutez, il y a des patronymes qui correspondent à des toponymes, mais on ne sait pas toujours quel est le rapport entre les deux. Il y en a pour lesquels on en est sûr. Par exemple, dans la série de bastides qui ont été construites par des vaudois venus des Alpes au XVe et XVIe siècle, nous les retrouvons encore aujourd'hui, parce qu'ils portent les noms, quand vous avez les roues, qu'est-ce qu'il y a comme... Enfin, il y a toute une série de bastides, je les avais cartographiées il y a très longtemps. Donc là, on sait que c'est parce que c'est cette famille-là qui s'est installée, la Bérarde par exemple. La Bérarde, ce sont les serfs d'Ibérard, parce que celui qui a créé cette bastide s'appelait Bernard ou Bérard. Donc c'est devenu la Bérarde, et ainsi de suite. Il y en a, je ne sais pas, une trentaine au moins comme ça. Mais d'autres fois, on ne sait pas, d'autant plus que l'orthographe n'est pas fixée à cette époque. Vous savez, nous, aujourd'hui, attention, si sur votre nom, l'accent grave est devenu aigu, c'est un drame, ou si on a mis un S. Mais à l'époque, Vaugine, par exemple, je le trouve dans les textes, Valjoane. Bon, alors, quand vous faites des travaux sur les personnes, vous vous demandez toujours, est-ce que ce sont les mêmes personnes, ou est-ce que c'est deux personnes différentes, vous voyez, c'est pas... On ne peut pas toujours répondre aux questions, au demeurant fort pertinentes.
Une autre question, en attendant. Alors,
d'autant plus que pour Vaugine, j'ai trouvé des textes, grâce à vous, où c'est écrit Vaugine, avec un J, J-O-U, et non pas G-I comme le village. Donc, ce n'est pas fixé.
Alors, pendant ce temps, le temps que le micro arrive à madame, une petite question. Le travail, ça c'est pour Jean-Constructier, le travail de romancier, c'est aussi d'aller se rendre sur place, pas que lire. Est-ce que vous avez visité justement tous ces villages pour vous imprégner du lieu?
Oui, pas tous un par un, mais je fais quand même quelques étapes, et notamment, comme je fais du seigneur d'Alens, qui s'appelait Jacques de Renaud, j'en fais un des personnages traités comme un personnage de fiction, puisque c'est lui qui va initier à l'histoire le héros du roman. Je suis allé à Lens et j'ai arpenté dans tous les sens le château, qui est d'ailleurs très original, parce qu'il est sur cette espèce de promontoire rocheux, et son plan est pas banal. C'est pas le château au milieu du village, il est carrément dans le ciel, au-dessus du village. Et donc je voulais savoir si depuis la tour du château, qui n'existe plus, on pouvait voir les incendies de la vallée d'Aigue. Donc je me suis posté pour voir, j'ai estimé que bon, un incendie qui montait droit dans le ciel, il devait être visible depuis là, puisque c'est ce qui les met en route, les héros, donc ils vont voir ce qui se passe, et c'est le début du massacre, on commence par la vallée d'Aigue, donc, et eux ils sont de l'autre côté du Val de Durance, donc il faut le temps qu'ils y aillent pour se rendre compte de ce qui se passe, et il faut aussi que pour la scène soit juteuse, il faut que le massacre soit commencé, hein, et non pas qu'on soit dans l'attente de dire alors quand est-ce qu'on commence. Moi j'ai des obligations cinématographiques. Alors, je peux répondre? Non, pas du tout, c'est pas. Mais c'est du miel, ça, pour moi. Un truc pareil, il faut pas le laisser passer. C'est la même chose lorsque Marseille, qui avait fait sécession, a fini par traîtrise, tomber dans les mains de Henri IV. Il aurait dit, c'est maintenant que je suis roi de France. C'est certainement pas vrai, mais ça fait une fin formidable. Et donc, on peut pas se passer de cette hypothèse quand on est romancier. C'est trop beau, quoi. Hein, le même que le fait que Opède ait eu des ennuis d'ordre de calcul urinaire et que le chirurgien qui a voulu lui sauver la vie était un protestant, donc au lieu de lui sauver, il l'a interrompu. Bon, c'est pareil. Ceci dit, moi je prends toutes les précautions oratoires en disant que personne n'est obligé d'y croire.
Oui, vous dites bien d'ailleurs, c'est la légende.
Ah, oui, oui.
C'est très clair, voilà, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Vous avez des questions? Oui.
La carte
représente
un rencontre
qui est aussi de la fiction. Est-ce que je dois entendre
la carte.
Est-ce que je dois entendre de l'ironie dans votre question?
Oui, oui.
La carte. Parce que c'est cette carte qui est en
mention
de plus de 3 millions d'euros.
Oui.
Et
oui.
Je voulais voir tous ces villages qui ont été catholiques et non bourgeois.
Je sais.
Donc, vous avez pris le village dans lequel il y a eu le massacre.
Oui. Et pour les autres,
au moment qu'il
n'y
avait pas de massacre, il
n'y
avait pas de.
Oui, voilà, ben oui. C'est encore pareil, on ne peut pas. Bien sûr. C'était plus nuancé que ça. Bien sûr. C'était plus nuancé. Mais voilà. C'est une carte, elle n'est pas romanesque, mais elle est simplifiée par la force des choses. On peut pas mettre des pourcentages. D'abord parce que je ne les connais pas, je ne sais pas si monsieur Audisio les connaît exactement, mais bon, il y avait des tendances, il y avait des villages qui étaient plus vaudois et d'autres plus catholiques et d'autres pizza moitié-moitié. Bon, donc on est bien obligé de trancher à un moment donné.
Comme on a dit au début, tout n'est pas binaire.
Voilà.
Oui, mais là, dans la carte, il y a quand même quelques erreurs. Parce qu'elle note 13 villages détruits, d'après les signes de la légende. Or, nous savons qu'il n'y en a eu que 11, vous me direz que 2 de plus ou de moins, mais malgré tout, à partir du moment où on met une carte,
oui,
autant qu'elle soit exacte. Et par ailleurs, il est dit que ce sont des villages incendiés, que ce sont des villages détruits, or il y a eu un seul village détruit, c'est Mérindol. Les autres ont été incendiés, mais voyez-vous, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que quand c'est détruit, et ça nous en avons un texte très... précis que j'ai retrouvé à Parme dans les archives du cardinal Farnèse, c'est quelqu'un qui décrit ce qui s'est passé et on a rasé les maisons. Vous voyez, ça a été quand même un très gros travail pour les pionniers et on a planté un écriteau avec une croix pour rappeler l'événement. C'est le seul village qui a été détruit. Les autres ont été incendiés. Mais incendiés, il vous reste les murs. Ce n'est pas rien. Enfin, la préoccupation des chiffres. Nous avons des mentalités arithmétiques, le savez-vous, avec tous les codes et les numéros que nous avons en tête, plus tous ceux que nous oublions, bien sûr. Voyez-vous, c'est une préoccupation qui... Pardon, une réflexion générale, d'abord, des mentalités de l'époque. On ne se préoccupe pas de ce genre de choses. Non pas qu'on ne sache pas compter, quand il faut compter ses sous ou combien de terres on a, on est tout à fait capable de le faire. Mais ce n'est pas une préoccupation permanente comme chez nous. Hein, quand vous dites, voilà, je me suis procuré ça avant, combien tu l'as payé? Voilà, tout de suite, il nous faut un chiffre. Voilà. Et ce n'est pas dans les mentalités de l'époque. Et même dans les mentalités traditionnelles, par exemple, des rois de France, les rois ne savaient pas exactement combien il y avait d'habitants dans leur royaume. Et ils n'en avaient pas besoin, d'ailleurs. Ils avaient besoin de tant d'argent pour les... qui entrerait par les impôts, la taille, puis après ça, c'était réparti par les provinces par les communautés, et à l'intérieur des communautés, on se débrouillait avec, à partir des cadastres, et puis voilà, tout l'argent rentrait comme ça. On ne savait pas très bien... Et non seulement ça, mais il valait mieux ne pas le savoir, parce qu'il y a, dans le livre des rois, vous trouvez dans la Bible, que David a été puni parce qu'il avait voulu savoir combien d'habitants il avait dans son royaume. Parce que ça, c'est pénétré dans la science divine. Donc vous voyez que, dès qu'on pose cette question, on est un peu mal à l'aise pour répondre, parce que d'une part, ça ne correspond pas aux besoins des gens, et comme ils n'en avaient pas besoin, ben, ils ne l'ont pas écrit. Et quand vous trouvez, moi il m'est arrivé de trouver des sommes, hein, parce qu'à l'époque, je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être, vous ne vous souvenez pas, mais la monnaie, c'était compliqué, il y avait les livres qui se divisaient en 20 sols, et chaque sol en 12 deniers. Alors quand vous devez faire une multiplication de tout ça, c'est monstrueux. Donc il m'est arrivé très souvent, sur des livres de compte, de trouver des erreurs. Ces gens savent mal compter. Bon, mais combien... Alors on a des chiffres qui sont avancés. Mais vous verrez que ce sont toujours des chiffres ronds. Et ça correspond quand on vous dit « Oh là là, j'ai eu 1000 soucis, hein, bon, est-ce que vous avez compté, vous en avez vraiment 1000 ?» Bon. Vous voyez, ce sont des chiffres, il me rappellera le 39 du mois, ou je ne sais plus combien. Ou, enfin, nous manipulons des chiffres qui sont en réalité symboliques. Alors, les chiffres que nous avons pour le Luberon, pour les Vaudois, il y a quelqu'un qui écrit à quelqu'un qui est en Suisse, il me semble, en Allemagne, je ne sais plus, et il lui dit il y aurait 10 000 maisons vaudoises en Provence. Bon. Vous voyez, c'est un chiffre rond. On ne sait pas. Il paraît qu'il y aurait eu 3 000 morts lors du massacre de 1545. Qui est allé compter ? On dit qu'il y a 600 hommes envoyés sur les galères de Marseille. 660. Ça, c'est Aubery qui le dit. Alors Aubery, ça peut être plus sérieux quand même. Mais bon. D'autant plus que, vous voyez, moi, dans les documents que j'ai, là, on vous dit 660, dans les documents que je suis en train de voir, il y a une note qui part d'un capitaine des galères au Parlement d'Aix qui dit qu'il y a... Il y a une multitude de... Enfin, il y a un très grand nombre de Vaudois qui sont sur les galères, et il y en a beaucoup de malades, et il y en a déjà 80 qui sont morts. Bon. Alors, il faut déduire déjà les 80, les 660. Enfin, vous voyez, je veux dire, on arrive dans... En réalité, je suis désolé de vous dire qu'en réalité, nous n'en savons rien. Mais de temps en temps, il faut dire aussi qu'on ne sait pas.
Et justement, c'est le travail du romancier d'essayer de combler un peu ses lacunes et d'arranger tout ça. J'en compte ici. Vous avez écrit, je l'ai dit, des dizaines d'ouvrages sur Marseille, sur les histoires de Marseille, les mystères, les affaires sanglantes. C'est un peu la première fois que vous vous intéressez au Luberon. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres livres qui parlent du Luberon dans vos œuvres.
Je crois que c'est mon livre le plus septentrional.
Hein, voilà. Vous avez demandé le visa pour passer la Durance.
J'ai pris le bac à trail.
Vous avez pris le bac à trail. D'ailleurs, il y en avait effectivement, oui, oui. Sur la Durance. Il y en avait à Malemort, entre Malemort et Mérendol, il y avait des barques à trail. Très sérieusement, de cette incursion dans l'histoire, et la religion, dans la persécution par l'Église romaine, dans la dissidence, dans ce massacre, ces villages martyrs, est-ce que c'est quelque chose qui sera à part dans votre œuvre de romancier ce jour, évidemment, vous sortez quasiment un livre par an, ce qui est énorme quand même, est-ce que c'est quelque chose qui est à part ou est-ce que vous le comptez dans le tout de votre œuvre? Comment vous voyez ce livre maintenant qu'il est sorti?
C'est tout à fait à part, c'est tout à fait à part. Il n'y aura pas les Vaudois 2. Oui.
Le retour, non.
C'est comme le Titanic, dans le film.
C'est une œuvre, alors justement, on l'a dit, bah, après, vous revenez sur le fait du quand Meynier d'Oppède va ensuite au procès à Paris. Donc, c'est plus le Parlement de Provence qui a on dépayse le procès, hein, on dirait ça aujourd'hui, on dépayse le procès pour qu'il parte à Paris. Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte, je vais te le dire, tout le monde s'en fout des Vaudois. Ça ne nous intéresse plus. Plus personne, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. On s'intéresse plus à savoir est-ce que Meunier d'Opède et tout cela sont fautifs, de quelle manière, comment. Mais les massacrés et les martyrs, on les a un peu oubliés dans l'affaire, à la fin.
C'est plutôt à vous, là.
Mais oui. Et qui les a oubliés?
Un peu tout le monde. On n'en parle plus.
Ah non, mais les seigneurs de des lieux en question, eux, ils ont pas oublié. Hein, parce que ces gens étaient très utiles, ils payaient leurs taxes seigneuriales. C'est très important. C'est pourquoi il n'y a aucun des villages qui ont été incendiés qui n'ait été habité après. Tous ont été rebâtis, reconstruits, et y compris Mérindol, qui pourtant a été rasé. En 1550, alors voyons, 1548, il y a déjà un petit groupe d'habitants qui y est, et en 1551, la communauté est reformée.
13 000.
Comment ? Ah, 13 000, oui, 13 000, c'est vrai.
Alors ça, c'est vers Villelor.
C'était un hameau, c'était pas grand-chose.
C'était un hameau. Oui, non, mais vous avez raison, 13 000 n'a pas ressuscité. En revanche, il y a quelque chose qui m'a amusé quelque temps, et encore que ce soit un peu terrible quand même, c'est que vous savez, il y a un village qu'on a appelé Cabrillerette, et pendant longtemps, on a cru que c'était un autre village, qui était du côté justement de Villelor. Je me souviens un été dans les années 80, où je passe par là, il y avait deux ou trois personnes en train de piocher, et là, alors je me suis approché, qui recherchaient Cabrillerette. Et bon, à l'époque, je ne savais pas du tout ce qu'il en était. Mais après, je l'ai démontré parce que je l'ai trouvé aux Archives nationales à Paris. C'est une erreur d'un typographe qui, au lieu d'écrire Cabrière, elle, etc., a écrit Cabriérette. Et après, cette mauvaise impression a fait des petits. Alors, pendant des siècles, on a cherché où était Cabriérette. Et Cabrillerette n'a jamais existé. Cabrillerette, c'était la façon d'appeler Cabrière d'Aigle, comme vous le dites dans votre ouvrage, pour le distinguer de Cabrière d'Avignon.
Moi, je voudrais vous poser une question. Des Vaudois persécutés, il y en a eu à travers l'Europe, puisque l'Église a la même mise sur tous les pays, sauf lorsqu'ils deviennent protestants. Est-ce qu'il y a eu l'équivalent de la croisade du Luberon? Est-ce qu'il y en a eu une en Italie, en Tchécoslovaquie, en Allemagne?
Oui, en Italie du Sud. Il y a eu le massacre de Calabre. Les Vaudois de Calabre ont été littéralement massacrés. Véritablement. Là, en une journée, les gens, enfin, ça a duré plusieurs jours, mais surtout une journée. Et à tel point que certains pensent que si on allait creuser devant l'église de... Alors, comment s'appelle ce village? Enfin bref, on trouverait sans doute les restes des Vaudois massacrés. 1561, je crois.
Cette histoire, vous la savez, vous la connaissez. On sait tous que cette histoire des Vaudois, elle mériterait d'être plus connue et mieux connue. J'espère que ce livre de Jean-Comte Lucy va y contribuer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jérôme Garcin, grand de plume évidemment, et homme de radio et d'écrivain. Il dit « Un roman de Jean-Comte Lucy, ça se dévore pour l'intrigue et ça se déguste pour la manière. » Je crois que c'est très beau comme mot. Je voudrais terminer avec un mot. Un mot, c'est le dernier mot du roman, je n'ai pas besoin de l'ouvrir pour le lire. C'est en provençal. C'est l'espère, l'espoir, l'espérance. Et quelque chose de très important que j'ai noté, c'est sur le site internet, notre ami Jean-Comte Lucy, lire nuit gravement à l'ignorance. Rendez-vous auprès de Rita, auprès de la librairie Le Blason.